Pour commencer, donc, je vais très rapidement resituer la genèse de ce projet dans le cadre du programme ANR Blanc Anthropos intitulé « Vers une physique de l'âme, la constitution d'une science de l'homme, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 17e, 19e siècle ». Donc, ce projet comprend en effet quatre axes de recherche. Le destin de l'empirisme sur le continent, les querelles autour du matérialisme, le tournant anthropologique, la constitution d'une science de l'homme, et un premier axe que je dirige avec Sophie, et dont est issue l'idée de ce colloque, les spécificités de la réception de ce que notre projet désigne par une expression relativement inadéquate concernant Descartes lui-même, comme la philosophie seconde de Descartes. Notre idée de départ était de montrer dans quelle mesure cette philosophie seconde ouvre des voies problématiques inédites à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. L'enjeu principal étant de repenser, à partir d'une approche historique et non plus dogmatique, les relations complexes qu'elle entretient avec la philosophie première. Car c'est bien parce qu'une certaine historiographie a pensé cette philosophie première du dualisme des substances de façon dogmatique que, d'une part, elle s'est empêchée d'envisager l'influence d'autres métaphysiques dans l'élaboration de la physique et de la physiologie nouvelle. On pense aux résurgences contrastées de l'aristotélisme, mais aussi à l'influence de la pensée renaissante et de Plotin chez les platoniciens de Cambridge, dans la discussion sur les rapports de l'âme et du corps dans la seconde partie du XVIIe siècle. Et que, d'autre part, elle a refusé de considérer la possibilité d'une autonomisation des causes secondes par rapport à la philosophie première, autonomisation qui caractérise pourtant tout un pan des Lumières. Enfin, elle a minoré l'importance, pour comprendre à la fois l'approche physicaliste de l'âme et les critiques qu'elle engendre, d'une étude minutieuse des histoires contrastées de la physique et de la physiologie qui connaissent, sur la période et la zone géographique qui nous intéressent, des mutations fondamentales. L'enjeu pour nous était donc de tenter de renverser ces obstacles méthodologiques afin de montrer ce que la prise en considération de cette philosophie seconde apporte à la nouvelle connaissance de l'homme. La première démarche à adopter consistait ainsi à revenir à Descartes lui-même et à ses premières réceptions, afin de reposer la question de l'éventuelle articulation entre la métaphysique, à penser en relation avec la philosophie première, et ce qui, dans les textes, est désigné comme physique ou philosophie naturelle. Le second moment consistait à élargir encore le cercle de la réception afin de penser d'autres compositions et recompositions. C'était une question si ample qu'il fallait bien l'association de nos deux écoles pour le traiter. Et je ne m'avance pas trop, je pense, en disant qu'avec Sophie et Jean-Pascal, nous avons bien l'intention de continuer. Donc, du primat inconditionnel de la métaphysique, considérant finalement l'œuvre physique comme secondaire, souvent parce qu'obsolète, à la considération de cette métaphysique comme un prétexte ou un excursus finalisé par la publication de la physique, tout un panel d'interprétations était en effet disponible qui engageait une relecture des textes cartésiens et des différentes manières dont ils avaient été reçus. Le rôle de Daniel Gerber et de son ouvrage Descartes Metaphysical Physics s'était de ce point de vue avéré décisif. On pouvait par exemple le confronter à la lecture de l'ouvrage de Desmond Clark, paru la même année en 1992, Descartes' Theory of Mind, selon qui la prise en considération contrainte par Descartes des implications de sa physique pour les théologiens entraînait une incohérence dommageable dans les textes entre le langage émergent de la nouvelle révolution scientifique et le langage dualiste de la tradition scolastique. Avec Catherine Wilson, notamment, Desmond Clark retenait ainsi la lecture empiriste de Régius comme une de ses lectures cohérente possible du cartésianisme. Cohérente, c'est son mot. À partir de là, plusieurs questions massives pouvaient se poser, engageant notamment la place des méditations métaphysiques dans l'économie de l'œuvre de Descartes, ou encore le sens véritable que Descartes confère à la dépendance de la physique envers la métaphysique. Ce fut l'objet de la première partie lyonnaise du colloque en mars dernier. De 1630 à 1660, et disons-le tout de suite, donc la partie parisienne portera plutôt sur les années 1660 à 1690. Donc, je reviens un petit peu sur ce premier moment. Donc, le projet s'articulait autour de trois idées majeures. Sur le plan de l'état de l'art, tout d'abord, il fallait faire un point factuel sur le conflit des interprétations. À cet effet, nous avons souhaité analyser non seulement les enjeux du conflit d'aujourd'hui, mais aussi les enjeux du conflit d'hier. Comment le rapport entre métaphysique et physique est-il analysé aujourd'hui? Comment a-t-il été analysé hier, par exemple, dans les travaux de Millot, d'Alquier, de Coiré, de Gilson? Qu'en est-il aussi des premières histoires du cartésianisme du XIXe siècle, voire dans la constitution des anticartésianismes des Lumières? Sur cette base, il devenait possible de proposer des interprétations nouvelles portant sur les années de constitution du corpus cartésien. Et deux angles d'attaque au moins, ici, étaient envisageables. Le premier consistait à réinterroger, en l'ancrant dans une histoire et une étude contextuelle actualisée par la publication de documents comme le dossier de la querelle d'Utrecht, ce que Descartes lui-même entendait par métaphysique et physique, ce qu'il pensait faire, à quel type d'objection il répondait, ou quel type de mauvaise lecture il pensait prévenir lorsqu'il décida de les relier dans l'arbre de la connaissance, dans la lettre préface à l'édition française des Principes de la philosophie. Le second consistait à envisager en quels termes et avec quels enjeux un tel projet fut désigné, parfois pour être stigmatisé, par ceux qui se présentaient eux-mêmes ou furent par d'autres, ce qui déjà n'est pas la même chose, désignés comme des adversaires de Descartes. Car la polémique trace toujours des lignes de partage en produisant des effets réels, et ces effets de réel jouent un rôle dans l'histoire des idées. Enfin, un troisième niveau de réflexion se dégageait, qui concernait toujours la toute première réception du cartésianisme. Il s'agissait très généralement d'examiner les relations complexes unissant la métaphysique à la physique chez les philosophes non cartésiens, qu'il s'agisse d'anciens philosophes ou de nouveaux philosophes qui souhaitaient, comme Descartes, réformer la philosophie, quoique pas de la même manière. Il s'agissait, plus particulièrement encore, d'interroger les moments où ces différentes manières de concevoir la métaphysique et la physique, mais aussi leur rapport, avaient été effectivement confrontées les unes aux autres, y compris sur un plan institutionnel. Donc cette partie lyonnaise nous a permis d'aboutir à de premiers résultats. Nous sommes partis du rôle des relais historiques dans la constitution d'une doxa, ou plutôt de plusieurs doxas successives, sur les relations entre physique et métaphysique chez Descartes. Des enjeux de l'ordre cartésien pour les Lumières, avec Maria Franca Spallanzani, en passant par les Cousiniens, pour ma propre contribution, et des commentateurs majeurs du XXe siècle, qui conjuguent les approches par la philosophie, par l'histoire de la philosophie et par l'histoire des sciences, donc Duhem, Millot et Bachelard par Delphine Bélis. Nous vîmes ainsi se faire et se défaire des relations contrastées entre les racines et le tronc de l'arbre du savoir, étant entendu que les éventuels mouvements pendulaires que nous pouvions constater étaient à chaque fois à relier à des contextes et à des enjeux singuliers. Ce premier parcours mit également au jour l'importance des choix éditoriaux que nous avions retrouvés au détour de chaque communication, sans toutefois leur consacrer d'études autonomes. Il était clair ainsi, par exemple, qu'éditer le discours de la méthode sans les essais, qui en constitue pourtant pour Descartes autant d'applications concrètes indissociables, constituait à soi seul un choix interprétatif lourd de conséquences. Nous pûmes ensuite revenir à Descartes lui-même. Desmond Clark reposa à nouveau frais la question du rapport entre métaphysique et naturalisme épistémologique chez Descartes, qu'Emmanuela Scribano thématisa parfaitement en partant du traité de l'homme comme, je reprends son expression, une cohabitation difficile. Denis Cambouchner revint sur l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de métaphysique, mais seulement une méthode dans les régulés. Puis nous nous sommes tournés vers la première réception. Par une démarche symétrique de l'approche qu'il propose de Descartes dans son ouvrage de référence que j'ai déjà cité, Daniel Gerber s'est intéressé à Hobbes et à la physique non métaphysique de ce dernier. Éric Jan Bos est pour sa part revenu sur la physique métaphysique originale d'Arnold Jeulenx. Édouard Mel sur les différentes utilisations et critiques des vérités éternelles chez les cartésiens hollandais, Schnell, Landsbergen, Hortensius et Beckmann. Enfin, Andrea Sangiacomo a pris l'exemple de la déterminatio chez Spinoza pour tenter d'en penser les dimensions inextricablement physiques et métaphysiques. Cet ensemble riche a produit des discussions fécondes et, disons-le, également quelques désaccords, dont ont émergé des questionnements et des distinctions plus fins, par exemple entre philosophie première et métaphysique, ou encore concernant la manière dont il convient de définir la dépendance éventuelle de la physique envers la métaphysique dans l'arbre du savoir. Et c'est dans ce même esprit d'ouverture de discussion que nous ouvrons à présent cette partie parisienne, consacrée donc aux années 1660 à 1690. Il faut tout d'abord souligner que sur un plan à la fois méthodologique et éthique, la démarche consistant à prendre en considération la réception dans toute sa dimension controversiale pour étudier une œuvre suppose une certaine conception de l'histoire des idées que nous partageons avec Sophie et au sein de notre équipe de recherche. Et on pourrait la résumer vraiment très rapidement en deux points majeurs. Tout d'abord, l'idée selon laquelle faire de l'histoire de la philosophie, c'est étudier des idées en prenant en compte des contextes. Le cartésianisme et l'anticartésianisme ne sont pas des essences, mais des catégories qui se sont historiquement élaborées à travers des débats, des polémiques et des controverses. Partir de ces controverses, plutôt que de l'architectonique des systèmes, c'est dynamiser les systèmes eux-mêmes en nous permettant d'y voir ce qu'ils ne suffisent jamais seuls à exhiber. La deuxième idée sous-jacente à la démarche de ce colloque, et qui est en fait étroitement liée à la première, c'est que les conflits interprétatifs trouvent leur origine dans les possibilités ouvertes par les textes mêmes de Descartes. Si l'autonomisation de tel ou tel problème de physique, par exemple, s'avère possible dans la réception, c'est bien parce qu'un certain nombre de textes de départ appellent tendanciellement ce type de lecture. Que l'on choisisse, avec Renouvier et Marx, la filiation Régius, la métrie Cabanis, pour penser à un matérialisme médical cartésien, par exemple. Ou bien, dans la lignée de Klauber, de Tobias Andrea et de Victor Cousin, que l'on défende une lecture spiritualiste, il demeure que, dans les textes cartésiens eux-mêmes, cohabitent, dans une relation qu'il est précisément intéressant d'éclairer, ces différents types de possibilités. Recevoir un texte ainsi, c'est choisir et hiérarchiser, ces choix et ces hiérarchisations ayant toujours quelque chose à nous apprendre en retour sur le point de départ. Donc, les années 1660-1690, qui nous intéresseront plus particulièrement durant ces deux journées et demie, sont des années décisives, à la fois parce qu'elles voient se multiplier les affrontements entre partisans et adversaires de Descartes, y compris d'un point de vue institutionnel, et parce que se mettent alors en place les prémices de ce que Paul Hazard a nommé la crise de la conscience européenne. Il s'agit donc de déterminer ce que, dans ces années, ont été, ou ce que n'ont pas été, les effets de la manière cartésienne d'aborder les rapports entre physique et métaphysique. Par exemple, l'inversion cartésienne de l'ordre aristotélicien de la métaphysique et de la physique a-t-elle été prise au sérieux ? A-t-elle été admise ? Ou bien, au contraire, explicitement récusée ? Dans notre appel à projet, nous avons souhaité plus spécifiquement aborder les trois questions suivantes en montrant qu'elles ont été au cœur d'un certain nombre de controverses. Donc je les reprends. Tout d'abord, comment les objets de la métaphysique et les objets de la physique sont-ils distingués dans ces années ? Répondre à cette question suppose qu'on tienne compte de la diversité de la physique, qui n'est pas seulement physique générale, mais aussi physique particulière, voire science mixte, mais aussi de ses liens avec certaines sciences particulières comme la chimie et la médecine. Symétriquement, il faut tenir compte aussi des liens entre la métaphysique et la théologie rationnelle. Et une fois cela posé, il sera particulièrement intéressant de se demander s'il y a des objets frontières, des objets qui sont traités par certains philosophes comme des objets métaphysiques et par d'autres philosophes comme des objets physiques. Ou pour le dire autrement, y a-t-il des textes frontières, des textes qui sont lus par certains comme des textes métaphysiques et par d'autres comme des textes physiques ? Deuxièmement, se demander comment sont traités les objets et les textes conduit directement à la question de la démarcation entre physique et métaphysique, cette fois du point de vue de ce que nous pourrions appeler leur méthode. Le progrès des sciences, mais aussi l'apparition de sociétés savantes institutionnalisées, va dans ces années de pair avec la thèse que la physique empruntera la voie sûre d'une science seulement à en passer par des pratiques expérimentales et à se distinguer des disputes sans fin et des discussions oiseuses de la métaphysique. Qu'une telle idée soit ou non justifiée, elle produit immanquablement des effets. Reste-t-il dans ces conditions encore une place pour la physique générale ? Et si oui, laquelle ? Comment cette nouvelle manière de démarquer la physique et la métaphysique s'articule-t-elle à d'autres démarcations plus anciennes pour définir la métaphysique ou pour lui imposer de nouvelles exigences ? Si en effet une théorie physique se teste par des expériences, il est par analogie naturel de se demander ce qui permet d'évaluer une théorie métaphysique. Enfin, une fois la physique et la métaphysique démarquées, on peut se demander quel rapport instituer entre elles deux. Certains entendent promouvoir un partage du travail qui les maintiendrait séparés, de manière à éviter un conflit des facultés. D'autres estiment déceler, au sein de la physique même, la nécessité de faire de la métaphysique. C'est par exemple le cas de Leibniz lorsqu'il réhabilite les formes substantielles. Mais quand elles sont réhabilitées, s'agit-il des mêmes formes substantielles ? Non seulement du point de vue de leur définition, mais aussi du point de vue de la fonction qu'elles tiennent dans le système philosophique. Les mêmes questions peuvent être posées à propos des ferments, des esprits ou des formes vitales qui sont invoquées par certains physiciens, certains chimistes ou certains médecins pour résoudre toutes sortes de problèmes qui étaient apparus à cause du mécanisme ou qui étaient demeurés irrésolus en son sein. S'agit-il simplement de maintenir d'anciennes entités plus ou moins métaphysiques, de leur assigner un nouveau rôle, plus physique cette fois, ou bien le contraire ? Donc la richesse du programme qui nous attend laisse encore une fois présager des résultats intéressants, de belles discussions. Et donc je vais céder sans plus tarder la parole à Roger Ayew, qui est incontournable sur toutes ces questions relatives au cartésianisme. Je ne le présente même plus. Et il va nous ramener à Descartes et au tout premier cartésien pour nous permettre après de repartir dans l'autre sens.